Chapitre 40. Une création. Les yeux fermés et le visage levé vers le ciel, Perrine était assise seule sur une souche. Le camp déjà monté, les achamans avaient refermé les portails et il avait entendu tous les rapports. Enfin, il trouvait le temps de se reposer un peu. Un moment périlleux. Le repos incitait à penser et de la réflexion naissaient les souvenirs. Une force source de chagrin. Dans le vent, Perrine captait les odeurs tourbillonnantes du monde. Celle du camp, d'abord. La sueur des gens, la senteur des épices, celle du savon, les relents de crottins et le feu d'artifice des émotions. Autour du site flottait un parfum d'aiguilles de pain séché et d'eau dormante. Avec hélas la puanteur d'une carcasse en décomposition. Au-delà, le jeune homme captait l'odeur de la poussière, sur la route désormais distante, et une fragrance de lavande qui subsistait par miracle dans un environnement agonisant. Pas de pollen, pas de loup non plus. Deux très mauvais signes aux yeux de Perrine. Il se sentait malade. Physiquement, comme si son estomac était plein d'eau croupie, de moisissures et d'insectes crevés. Il aurait voulu crier. Surtout, il brûlait d'envie de trouver tueur et de l'abattre, à coups de poing, jusqu'à ce que son fichu crâne explose. Des bruits de pas retentirent, ceux de Fail.
Perrine, tu veux qu'on parle ?
Le jeune homme ouvrit les yeux. Il aurait pu pleurer ou hurler de rage, mais il se sentait si froid, glacé et furieux. Deux choses qui n'allaient pas ensemble à ses yeux. Sa tente se dressait non loin de là, le vent agitant le rabat. Près de la souche, Gaul était adossé à un tronc. Quelque part dans le camp, un maréchal ferrant travaillait de nuit. À cette distance, on eût cru entendre sonner des carillons.
« J'ai échoué, Fail. »«
Non, tu as récupéré le terrain gréal et sauvé nos gens. »
La jeune femme s'accroupit près de la souche.
« Pourtant, tueur nous a vaincus. »
Lâcha Perrine, amère.
« Une meute de 5 ne suffisait pas pour l'affronter. »
Perrine avait éprouvé le même désespoir en découvrant les corps de toute sa famille, massacrés par des trolloques. Avant que tout ça soit fini, qu'est-ce que le ténébreux entendait encore lui prendre? Dans le rêve des loups, Sauteur aurait dû être en sécurité.
Louveteau stupide, louveteau stupide.
Y avait-il jamais eu un piège visant l'armée de Perrine? La pointe des rêves de tueur était peut-être destinée à tout autre chose. Une coïncidence.
Pour le Taveren, il n'y a jamais de coïncidence.
Perrine devait trouver une utilité à sa colère et à son chagrin. Se levant, il se retourna et fut surpris par le nombre de lumières qui brillaient encore dans le camp. Un groupe de gens attendait pas très loin de lui, assez cependant pour qu'il ne puisse pas distinguer spécifiquement l'odeur de chacun. Aliandre en robe couleur or et Bérélaine en bleu, toutes deux assises dans des fauteuils, près d'une petite table pliable où trônait une lanterne. Installé sur un rocher, non loin des femmes, Elias aiguisait son couteau. En rond, autour d'un feu de camp, une dizaine de gars de deux rivières, dont Will Alcine, John Ayelin et Grayor Fren, regardaient leur chef. Arganda et Galen étaient également là, conversant à voix basse.
« Ces gens devraient dormir, »
souffla Perrine.
« Ils s'inquiètent à ton sujet, »
dit Fail. À son odeur, elle se rongeait aussi les sangs.
« Et ils ont peur que tu les chasses, maintenant que les portails sont de nouveau fonctionnels. »«
Tant de crétins. Crétins parce qu'ils me suivent. Crétins parce qu'ils ne se cachent pas. »«
Tu aurais vraiment voulu qu'ils le fassent ?»
demanda Fail en colère.
« Qu'ils se tapissent quelque part pour échapper à l'ultime bataille ? N'as-tu pas dit que nous aurions besoin de tout le monde ?»
Fail avait raison. Chaque humain devrait se battre. Mais Perrine était frustrée. Pourquoi ? Parce qu'il ignorait à quoi il avait échappé. À quel danger, s'il n'y en avait jamais eu un ? Pourquoi Sauteur était-il mort ? Ne pas connaître les plans de l'ennemi lui donnait l'impression d'être aveugle. Il s'éloigna de sa souche, approchant d'Arganda et de Galen.
« Qu'on m'apporte la carte de la route de Djeana !»
dit-il. Arganda appela Irshanin et lui expliqua où trouver la carte. L'homme partit au pas de course. En attendant, Perrine s'enfonça dans le camp, en direction des carillons, là où le maréchal ferrant travaillait encore. Alors que les odeurs du camp tourbillonnaient autour de lui, le ciel toujours tourmenté, il se sentait attiré par ces sons. Les autres le suivirent. Fail, Bérélaine, Aliandre, les gars de Deux Rivières, Elias, Gaul, Arganda et Galen. En chemin, plusieurs compatriotes de Perrine se joignirent au cortège. Personne ne parla. et le jeune homme fit comme s'il était tout seul. Enfin, il arriva devant la forge de campagne où Aemin s'échinait encore. Irshanin déboula, un rouleau entre les mains. Alors qu'Aemin cessait de jouer du marteau, de la curiosité dans son odeur, Perrin déroula la carte et la leva à hauteur de ses yeux.
« Argonda, Galen, j'ai une question pour vous. Chargé de tendre une embuscade à une grande colonne cheminant sur cette route en direction de Lugard, quel site choisiriez-vous ?»
Argonda désigna un point, à plusieurs heures de marche du camp.
« Là, tu vois la configuration. La route tourne pour suivre le lit d'un cours d'eau desséché. Dans un coin pareil, une armée sera totalement vulnérable à une attaque. Surtout si celle-ci vient de la colline à droite et du haut du plateau à gauche. »
Galen approuva du chef.
« Oui, je suis d'accord. Cet endroit est signalé comme un excellent site de campement pour une force importante. En particulier au pied de la butte où la route commence à tourner. Mais si quelqu'un est perché en hauteur avec de mauvaises intentions, le risque est que personne ne se réveille dans le camp le lendemain. »
Argonda hocha la tête. Le haut plateau était situé au nord de la route. Au sommet, il y avait assez de place pour poster toute une armée.
« Que signifient ces marques ?»
demanda Perrin, en désignant des croix au sud de la route.
« Elles indiquent d'antiques ruines, »
répondit Argonda.
« Sans valeur pour nous, parce que trop dévastées pour fournir un abri. En fait, il s'agit d'un champ de rochers couvert de mousse. »
Perrin acquiesça. Dans sa tête, quelque chose se précisait.
« Grady et Neald dorment-ils ? »
« Non, » répondit Berelein. « Ils ont décidé de veiller, jusqu'au cas où. Je crois que te voir si sinistre les a ébranlés. »«
Allez les chercher !»
ordonna Perrin, sans s'adresser à quelqu'un en particulier.
« L'un d'eux doit vérifier la position des fils. J'ai entendu dire qu'ils ont levé le camp. »
Sans attendre de savoir qui exécuterait son ordre, Perrin approcha de la forge et posa une main sur l'épaule d'Aemin.
« Va dormir, mon ami. J'ai besoin de m'occuper. Tu fabriques des fers à cheval, c'est ça ?»
Très perplexe, le maréchal Ferrand acquiesça. Quand Perrin l'eut soulagé de son tablier et de ses gants, il s'en fut cependant sans protester. Perrin tira de sa ceinture le marteau qu'on lui avait donné à Théar, un présent qui servait à tuer ces derniers temps, mais plus à créer. Cet objet pouvait être une arme ou un outil. Après tout, Perrin avait peut-être le choix, comme tous les gens qui le suivaient. Sauter aussi avait choisi. Pour défendre la lumière, ce loup avait pris plus de risques qu'aucun humain, à part Perrin, ne le saurait jamais. Avec une paire de pinces, Perrin déposa un court morceau de métal sur l'enclume. Puis il entreprit de le marteler. Voilà un moment qu'il ne s'était plus campé devant une forge. La dernière fois, s'il se souvenait bien, c'était à Théar, un jour paisible où il avait provisoirement abandonné ses responsabilités pour travailler de ses mains.
« Tu es comme un loup, mon époux !»
lui avait dit Feil, se référant à l'intensité de sa concentration. C'était effectivement une caractéristique des loups. Même s'il connaissait le passé et l'avenir, il savait rester concentré sur la chasse en cours. En serait-il capable aussi ? Savoir se laisser consumer quand il le fallait, mais en conservant un équilibre avec les autres composants de sa vie ? Le travail lui fit l'effet habituel. Porté par le son rythmique du métal frappant le métal, il s'y laissa absorber. Pour commencer, il aplatit son morceau de métal, le remettant de temps en temps dans les flammes. Puis il en retira un autre afin de travailler sur plusieurs fers à la fois. À portée de ses yeux, près de l'enclume, une règle lui permettait de calibrer ses pièces. Lentement, Perrin plia ses longueurs de métal sur la bigorne de l'enclume. De la sueur le long des bras, le visage chauffé par les flammes et l'effort, il eut le sentiment de revivre. Neald et Grady arrivèrent, en compagnie des matriarches et de Massouri. Tout en travaillant, Perrin vit que les achamans envoyaient Souline vérifier la position des capes blanches. Layel franchit le portail dans l'autre sens quelques minutes plus tard. Pour faire son rapport, elle attendit que Perrin en ait terminé. Perrin saisit un fer à cheval avec les pinces et l'étudia. Ce n'était pas un travail assez difficile. Apaisant, certes, mais ce soir, il lui fallait un plus grand défi. Pour compenser la destruction qu'il avait vue dans le monde, y contribuant en partie, il éprouvait un furieux besoin de créer. D'autres barres attendaient dans un coin de la forge. Du métal de bien meilleure qualité que celui qu'on destinait au fer à cheval. Très probablement, il s'agissait de futures épées qu'on distribuerait aux anciens réfugiés. Perrin prit plusieurs de ces pièces et les déposa dans la forge. Moins sophistiquées que celles de Maître Luhan, mais équipées cependant d'un soufflet et de 3 tonneaux de trempe. Hélas, le vent refroidissait le métal, et les braises ne devenaient pas assez chaudes. De quoi être très mécontent.
« Seigneur Perrin, »
dit Neald,
« je peux t'aider si tu veux, en chauffant le métal. »
Perrin regarda la chamane, puis il fit « oui » de la tête. Prenant une barre d'acier avec sa pince, il la montra à l'homme en noir.
« Je veux qu'elle soit jaune-orangée, pas chauffé à blanc, comprends-tu ?
Néald hocha la tête. Perrine posa la barre sur l'enclume, prit son marteau et commença à frapper. À côté de lui, la chamane se concentra. Perrine se perdit totalement dans son ouvrage. Forger l'acier, plus rien d'autre ne comptait à ses yeux. Peu à peu, le bruit rythmique du marteau se confondit avec les battements de son cœur. Ce métal brillant, chaud et dangereux. Ainsi concentré, le jeune homme retrouva toute sa lucidité. Chaque jour, le monde se détériorait un peu plus. Sans tarder, il avait besoin d'aide. Quand un objet était brisé, on ne pouvait pas le reconstituer.
« Néald !»
appela Grady d'un ton pressant. Pour Perrine, sa voix semblait venir de très loin.
« Néald, qu'es-tu en train de faire ?»«
Je n'en sais rien, mais ça me semble... juste. »
Perrine continua de frapper, de plus en plus fort. Aplatissant l'acier, il obtint une pièce très réussie. La chamane, incroyablement, maintenait l'alliage à la température idéale. Ainsi, il épargnait à Perrine la peine d'attendre les rares moments parfaits entre deux séquences de chauffe. Dans ces conditions, le métal semblait docile, presque comme s'il le forgeait par la force de sa volonté. Que fabriquait-il donc ? Il sortit de la forge deux autres longueurs de métal et commença à alterner entre les trois. La première, également la plus grande, il la plia, la fit fondre et, l'amincissant, augmenta sa longueur. Ensuite, il en fit une grosse boule et ajouta de l'acier pour atteindre environ la taille d'une tête d'homme. La deuxième, il se contenta de l'allonger, puis la rainura pour en faire un étroit et long cylindre. La troisième, plus petite, il l'aplatit soigneusement. Ses poumons devenus des soufflets vivants, il respirait amplement, et sa sueur lui sembla soudain limpide comme de l'eau de trempe. Quant à ses bras, ils lui parurent aussi durs que l'enclume. Oui, il devenait peu à peu la forge.
« Matriarche !»
dit Néald.
« J'ai besoin d'un cercle. Vite ! Ne discutaillez pas, c'est urgent !»
Des étincelles jaillirent quand Perrine commença à marteler ses œuvres. À chaque coup, la gerbe se révéla plus grande et lumineuse. Désormais, le jeune homme sentait quelque chose sourdre de lui, comme si le marteau instillait sa force et sa ferveur dans le métal. Avec ses inquiétudes et ses espoirs également. Un flot qui se déversait en lui pour submerger les trois pièces pas encore complètement modelées. Le monde était à l'agonie, et Perrine ne pouvait pas le sauver. Ça, c'était le boulot de Rand. Lui, il rêvait simplement de revenir à sa vie d'avant, pas vrai ? Non, c'était faux. Il voulait Fail et toute la complexité qui allait avec. Il désirait la vie. Se cacher, il ne le pouvait plus. Comme les braves gens qui le suivaient. Leur allégeance, il ne l'avait pas demandée, mais elle lui était acquise. Si quelqu'un d'autre prenait le commandement et les faisait tous tuer, comment se sentirait-il ? Les coups de marteau se succédèrent, projetant des gerbes d'étincelles. Trop importantes, comme s'il martelait un seau rempli de métal en fusion. Dans l'air, ces étincelles fusaient, volant assez haut pour tutoyer la cime des arbres, à plus de 10 pas de là. À part Grady et les matriarches, massés autour de Néald, tous les témoins reculèrent.
« Je ne veux pas commander ces gens, mais si je ne le fais pas, qui s'en chargera ? Si je les abandonne et qu'ils périssent, ce sera ma faute. »
Perrine savait à présent ce qu'il fabriquait et qu'il tentait de créer depuis le début. La grande pièce, il lui donna la forme d'une brique. La longue devint une tige large comme 3 doigts. La plate se transforma en une équerre qui servirait à solidariser le manche et la tête. Sa création, c'était un marteau. Comme il convenait, il avait d'abord forgé les pièces. À présent, il comprenait. Il se focalisa sur sa tâche. Un coup après l'autre, chacun incroyablement sonore et puissant, au point de faire trembler le sol sous ses pieds. En tout cas, il l'aurait juré. Perrine jubila. Il savait ce qu'il fabriquait. Oui, enfin, il savait ce qu'il fabriquait. Il n'avait pas demandé à être chef, certes. Mais est-ce que ça le dispensait de ses responsabilités ? Les gens avaient besoin de lui. Le monde aussi. Soudain, avec une lucidité qui sembla refroidir son âme, comme de la lave quand elle se solidifie pour prendre une forme définitive, il comprit qu'il désirait commander. Si quelqu'un devait être le seigneur de ces gens, eh bien, il faudrait que ce soit lui. Parce que se charger des choses était la seule façon de s'assurer qu'on ne saboterait pas le travail. Avec un burin et un ciseau, il fit un trou au centre de la tête du marteau, puis s'empara du manche et, le levant bien au-dessus de sa tête, l'emboîta en usant de toute sa force. Ensuite, il posa le marteau sur l'équerre, puis frappa pour donner la forme requise à la fixation et solidariser le tout. En un sens, le métal était vivant, n'importe quel forgeron le savait. Une fois fondu, quand on le travaillait, il existait. Avec son propre marteau et un burin, il entreprit de ciseler des motifs minuscules, une infinité de petites modifications. Une éruption d'étincelles l'enveloppa, le bruit de son marteau rappelant une sonnerie de cloche. Modelant une petite chute de métal, il lui donna une forme bien précise, puis la posa sur la tête de son nouvel outil. Avec un cri triomphal, il leva une dernière fois son vieux marteau et l'abattit sur le nouveau, imprimant le symbole sur le côté de sa tête. Un loup bondissant. Perrine posa tous ses outils. Sur l'enclume, qui brillait encore d'une chaleur intérieure, reposait un magnifique marteau. Un chef-d'œuvre qui dépassait tout ce qu'il avait créé ou cru créer jusque-là. L'outil était doté d'une épaisse et puissante tête, comme celle d'une masse, mais avec une partie arrière biseautée. Un marteau de forgeron, en somme, mais long de 4 pieds, voire plus. Une taille énorme pour un outil de ce type. Le manche était entièrement en acier, ce que Perrine n'avait jamais vu sur un marteau jusqu'à ce jour. Quand il essaya de le soulever d'une main, il y parvint de justesse. Un objet lourd et solide. Sur un fond hachuré, un travail de précision digne d'un bijoutier, le loup bondissant décorait un des côtés de la tête. L'animal, de toute évidence, ressemblait à Sauteur. Perrine passa un pouce sur la gravure et le métal lui parut lisse et doux. Encore chaud ou touché, il ne le brûla pourtant pas. Quand il se détourna enfin de la forge, Perrine fut étonnée par le nombre de gens qui le regardaient. Au premier rang, les gars de Deux-Rivières étaient tous là. Jory Congar, Azzy Alton, Will Alcine et des centaines d'autres. Mais il y avait aussi des soldats du Gealdan, du Kairien, d'Andorre et de Mayenne. Tous fascinés et silencieux. Autour de Perrine, le sol était noirci par les étincelles. Dès qu'il bougeait, de la poussière d'acier argenté s'élevait de lui comme pour le doter d'une aura. Le souffle court et le visage ruisselant de sueur, Néald tomba à genoux. L'air épuisé, Grady et les matriarches du cercle s'assirent à même le sol. Les 6 aïels s'y étaient mises. Qu'avait-elle contribué à faire? Comme si toute sa force et la totalité de ses émotions avaient été instillées dans le métal, Perrine tenait à peine debout. Mais il ne pouvait pas se reposer.
« Will,
dit-il,
il y a des semaines, je t'ai ordonné de faire brûler tous les étendards à la tête de loup. As-tu obéi, jusqu'au dernier ?»
Will Alcine croisa le regard de Perrine et baissa aussitôt les yeux, honteux.
« Seigneur Perrine, j'ai essayé, mais... Lumière, je n'ai pas pu. J'en ai gardé un, celui que j'ai aidé à coudre.
« Va le chercher, Will !»
ordonna Perrine. À ses propres oreilles, sa voix semblait coupante comme une lame. Will s'empressa d'obéir, de l'angoisse dans son odeur. Il revint très vite avec un carré de tissu plié. Perrine prit l'étendard blanc bordé de rouge, puis il leva son marteau et regarda la foule. Fail était là, les mains croisées dans le dos. Incapable de lire en lui, elle devait tout avoir deviné.
« J'ai essayé de vous renvoyer chez vous !»
dit Perrine au soldat.
« Mais vous ne partirez pas, donc j'ai échoué. Alors, prenez bien note d'une chose. Quand nous irons au combat, je ne pourrai pas vous protéger tous, et je ferai des erreurs. »
Perrine chercha à croiser des regards dans l'assistance. Les hommes et les femmes dont il capta l'attention hochèrent tous la tête, sans regret ni hésitation. Et partout, les autres les imitaient. Perrine prit une grande inspiration.
« Si c'est ce que vous voulez !» « J'accepterai votre allégeance, et je vous commanderai !»
Des vivates saluèrent cette déclaration.
« Yeux jaunes ! Yeux jaunes le loup ! Jusqu'à l'ultime bataille ! Taïcha Maneteren ! Will !»
cria Perrine en brandissant l'étendard.
« Prends ce drapeau et lève nos couleurs ! Jusqu'à notre victoire lors de l'ultime bataille, qu'elle ne soit plus jamais en berne ! Je marcherai sous le symbole du loup ! Les autres, démontez le camp !» Que tous les combattants soient prêts à ferrailler. Une autre tâche nous attend ce soir.
Will prit l'étendard et le déploya. Jory et Adzi accoururent pour l'aider à le porter sans qu'il touche le sol. Ensuite, ils coururent en quête d'une hampe. L'assistance se dispersa, chacun filant exécuter l'ordre du seigneur Perrine. Voyant approcher Fail, le jeune homme attendit qu'elle l'ait rejoint et lui prit la main. Dans son odeur, la satisfaction dominait.
Un problème ?
Demanda-t-elle.
Non, je ne me plaindrai plus,
jura Perrine.
Je n'aime pas ça, même si je déteste également tuer. Donc, je ferai ce qui doit être fait.
Perrine baissa les yeux sur l'enclume noircie par l'ardeur de son travail. Son vieux marteau, désormais inutilisable, reposait dessus. L'abandonner lui brisait le cœur, mais sa décision était prise.
Néald, qu'as-tu donc fait?
Demanda-t-il à la chamane. Très pâle, l'homme en noir se releva péniblement. Perrine leva son nouveau marteau pour qu'il l'admire.
«
Je ne sais pas, Seigneur. C'est juste que... Eh bien, comme j'ai dit, ça semblait la bonne façon d'agir. Je voyais ce qu'il fallait réaliser et comment projeter les tissages dans le métal. En fait, il semblait les attirer, comme un océan qui s'abreuve des eaux d'un cours d'eau.
Néald rougit, comme s'il trouvait sa métaphore ridicule.
C'est une bonne description. Ce marteau, il lui faut un nom. Tu connais l'ancienne langue ?
Non, Seigneur.
Perrine regarda le loup gravé sur un côté de la tête.
Quelqu'un sait comment dire « celui qui bondit » dans l'ancienne langue ?
Pas moi,
souffla Néald.
Ma Aleinir,
fit Berelaine en faisant un pas en avant.
Ma Aleinir,
répéta Perrine.
C'est un très joli nom. Soline, ton rapport sur les Capes Blanches ?
Ils ont dressé leur camp, Perrine Aibara,
répondit la promise.
Montre-moi où sur la carte d'Arganda.
Laiel pointa le site du bout d'un index. Une plaine, le long d'une colline. Un haut plateau au nord et une route venue du nord-est serpentant autour de leur flanc sud, le long du lit desséché du cours d'eau, puis s'infléchissant vers le sud, à l'endroit où elle rejoignait le site du camp. Après, elle se dirigeait vers Lugard. Grâce à la colline et au haut plateau, le camp était protégé du vent sur deux côtés. Une situation parfaite, mais idéale pour tomber dans une embuscade. Perrine reconnut l'endroit que Galen et Arganda avaient tous les deux désigné. Les yeux rivés sur la carte, il repensa aux événements des dernières semaines.
Nous avons rencontré des voyageurs. Selon eux, les voies boueuses au nord étaient impraticables pour des chariots ou des charrettes.
Un troupeau de moutons courant devant des loups qui les poussaient vers la mâchoire d'un monstre. Feil et les autres avançant vers un abîme. Lumière.
Grady, Néald,
dit Perrine.
Je vais avoir besoin d'un portail. C'est possible ?
Je crois, répondit Néald. Laisse-nous juste quelques minutes de repos.
D'accord.
Sur la carte, Perrine désigna le haut plateau, au-dessus du camp des Capes Blanches.
Je veux que le portail donne sur cette position. Gaul !
Comme d'habitude, Laiel attendait à proximité de Perrine. En un éclair, il lui rejoint.
Gaul, va parler à Danil, à Arganda et à Galen. Toute l'armée devra traverser le portail le plus vite possible, mais en silence. Il faudra nous déplacer aussi discrètement que peut le faire une troupe de cette taille.
Gaul hocha la tête puis fila comme le vent. Galen étant encore dans le coin, il commença par lui. De la curiosité et de l'angoisse se mêlant dans son odeur, Feil regarda son mari.
« Que mijotes-tu, Perrine ?»«
Il est temps que je me mette à commander, »
répondit le jeune homme. Une dernière fois, il regarda son vieux marteau et passa un index le long de son manche. Puis il posa Mar Aleinir sur son épaule et s'éloigna, ses bottes grinçant sur les copeaux de métal refroidis. L'outil qu'il laissait derrière lui avait servi un humble apprenti forgeron. Ce garçon ferait toujours partie de lui, mais il ne pouvait plus lui laisser les commandes de sa vie. À partir d'aujourd'hui, il porterait le marteau d'un roi. Regardant son mari s'éloigner, Feil passa les doigts sur l'enclume. Perrine avait-il conscience de son apparence, alors qu'il se tenait dans une explosion d'étincelles, chaque coup de son marteau donnant la vie au morceau d'acier posé devant lui ? Tandis que ses yeux brillaient au moins autant que le métal, chaque coup de son outil s'était révélé plus assourdissant que le précédent.
« Ici, »
dit Berelaine,
« il y a des siècles qu'on n'a plus assisté à la création d'une arme forgée par le pouvoir. »
À part Galen, qui étudiait la carte en se massant le menton, tous les autres avaient suivi Perrine.
Ce jeune homme a fait la démonstration d'un don parmi les plus puissants, et il devra le refaire. Son armée sera plus forte si elle brandit des lames forgées par le pouvoir. Le processus est épuisant,
dit Feil.
Même si Néald peut réitérer son effort, je doute que nous ayons le temps de fabriquer beaucoup d'armes. Le moindre avantage peut être décisif,
rappela Berelaine.
L'armée que ton mari a levée promet d'être extraordinaire. Dans cette affaire, un Taveren est à l'œuvre. Il rassemble des hommes et ceux-ci apprennent à se battre avec une incroyable rapidité. Peut-être,
marmonna Feil. Elle contourna l'enclume sans quitter des yeux Berelaine, qui faisait comme elle dans l'autre sens. À quoi entendait-elle jouer ?
Quoi qu'il en soit, nous devons parler à Perrine,
insista Berelaine.
Et le détourner de son plan en cours. Son plan en cours ?
Répéta Feil, sincèrement désorientée. Berelaine s'immobilisa, une lueur dans le regard. À part ça, elle semblait très tendue.
Quelque chose l'inquiète beaucoup,
comprit Feil.
Le seigneur Perrine ne doit pas attaquer les Capes Blanches,
dit enfin Berelaine.
Je t'en prie, aide-moi à le convaincre. Il n'a pas l'intention de les attaquer,
répondit Feil. Elle n'en aurait pas mis sa main au feu, mais bon.
Il prépare une embuscade parfaite,
rappela Berelaine.
Des achamans pour manier le pouvoir de l'unique, des archers de deux rivières prêts à cribler l'ennemi de flèches, et enfin des escadrons de cavalerie résolus à charger et à achever la besogne.
Berylaine hésita, comme si elle était peinée.
Ton mari a manœuvré admirablement bien. Si Damodred et lui survivent à l'ultime bataille, il a promis d'accepter la punition. Là, il va s'assurer que les fils ne participent pas à Tarmon Gaidon. Ainsi, il n'aura pas besoin de tenir parole et d'être à la merci de ses pires ennemis. Le ténébreux excepté.
Fail ne cacha pas son incrédulité.
Il ne fera jamais une chose pareille. Tu en es sûr ?
Insista Berylaine.
Absolument.
Fail hésita. Dernièrement, Perrine avait beaucoup changé, en bien pour l'essentiel. Sa décision d'accepter le fardeau du commandement en témoignait. Dans ce contexte, l'embuscade qu'évoquait Berylaine avait un sens. Un acte cruel, mais raisonnable. Cela dit, ça ne collait pas du tout. Autant qu'il ait changé, Perrine ne serait jamais un pareil félon. Sur ce point, Fail n'avait aucun doute.
Sûre et certaine, Berylaine. Donner sa parole à Galad puis massacrer lâchement les fils détruirait l'âme et le cœur de mon mari. Il ne réfléchit pas ainsi. Rien ne se passera. J'espère que tu as raison,
dit Berylaine.
Avant notre départ, j'avais l'ambition de négocier avec le Seigneur Général.
Un fils de la lumière, par le sang et les cendres. Berylaine n'aura-t-elle pas pu s'amouracher d'un des nobles présents dans le camp? Un célibataire, bien entendu.
Tu n'es pas très doué pour te choisir un galant, pas vrai?
Des propos que Fail regretta aussitôt. Berylaine regarda son ami avec des yeux ronds de surprise ou de colère.
Et que dis-tu de Perrine? Vous ne seriez pas allés ensemble. Tu viens de le prouver ce soir, en le soupçonnant d'être sans foi ni loi. Qu'on aille ensemble ou non n'est pas pertinent. Perrine m'a été promis. Par qui? Le Seigneur Dragon. Quoi? Dans la pierre de Théar, j'ai fait des avances au dragon réincarné. Il m'a repoussé, se montrant même furieux de mon audace. En réfléchissant, j'ai compris qu'il entendait épouser une femme beaucoup plus haut placée. Elaine Trakand, probablement. C'est logique, car il ne peut pas espérer conquérir tous les royaumes par les armes. Donc, une alliance devait lui convenir. Andorre est un pays puissant dirigé par une femme. Le tenir par le biais d'un mariage aurait ses avantages. Perrine affirme que Rand ne réfléchit pas ainsi. Berylaine, il n'est pas si calculateur. Le connaissant un peu, c'est aussi ce que je pense. Tu dis la même chose de Perrine. Tu voudrais que je les prenne pour des simplets incapables d'avoir des arrière-pensées? Je n'ai pas dit ça. Et pourtant, tu utilises les mêmes vieilles ficelles. C'est fatigant. Bien, revenons à mon histoire. Ayant compris où voulait en venir le Seigneur Dragon, j'ai jeté mon dévolu sur un de ses plus proches compagnons. D'accord, le dragon ne m'a peut-être pas promis Perrine. J'avoue avoir mal choisi mon terme. Mais j'ai deviné qu'il serait ravi si je m'unissais à un de ses plus proches amis et alliés. En fait, je pense qu'il espérait que ça arriverait. Après tout, c'est lui qui nous a affecté cette mission à tous les deux. Perrine et moi, je veux dire. Mais il ne pouvait pas être trop direct sur ses désirs, de peur de vexer son vieil ami.
Fail hésita. D'un côté, le discours de Berylaine était du pur délire. De l'autre, elle voyait très bien ce que la première dame avait pu croire en toute bonne foi, ou s'être imaginée parce qu'elle en avait envie. Pour elle, briser un ménage n'avait rien d'immoral. C'était de la politique, rien de plus. En toute logique, Rand devait avoir eu envie de se rallier des nations par le biais de mariage. Cela dit, ça ne changeait rien à l'essentiel. Ni Perrine, ni lui ne voyaient les affaires de cœur sous cet angle-là.
« J'ai renoncé à Perrine, »
dit Berylaine.
« Et je tiendrai parole. Mais ça me laisse dans une situation délicate. Pendant longtemps, j'ai cru qu'un lien avec le dragon réincarné serait le seul moyen de préserver l'indépendance de Mayenne. Se marier, ce n'est pas seulement songer à ses intérêts politiques, »
rappela Fail.
« Certes, mais quand les avantages sont énormes, on aurait tort de les ignorer. Et que vient faire ce cap blanche là-dedans ? C'est le demi-frère de la reine d'Andorre, »
dit Berylaine en rosissant.
« Si le seigneur dragon compte épouser Elaine Trakand, ça me fera un lien solide avec lui. »
C'était bien plus profond que ça. Fail le voyait à la façon dont Berylaine se pâmait dès qu'elle évoquait Galad Damodred. Mais si elle voulait se rassurer en se trouvant une motivation politique, Fail ne voyait aucune raison de la contrarier, tant que ça détournait son attention de Perrine.
« J'ai fait ce que tu me demandais, »
reprit Berylaine.
« À présent, j'ai besoin de ton aide. S'il s'avère que Perrine veut attaquer les fils, joins-toi à moi pour essayer de l'en dissuader. Ensemble, nous y parviendrons peut-être. » «
Très bien, »
dit Fail.
« Marché conclu. »
Pour la première fois, Perrine commandait une armée qui se sentait unifiée. Au-dessus du drapeau de Mayenne, de celui du Géaldan et de ceux des maisons nobles des réfugiés, l'étendard à la tête de loup flottait fièrement. Accessoirement, il dominait aussi les bannières que les gars avaient improvisées pour représenter les différentes régions de deux rivières. Le Seigneur Perrine. Il ne s'habituerait jamais à ce titre, mais au fond, le porter était peut-être une bonne chose. Tandis que les hommes traversaient en le saluant, Perrine, montée sur marcheur, se tenait sur un côté du portail. Pour l'heure, des torches fournissaient toute la lumière. Avec un peu de chance, le pouvoir de l'unique serait à même d'illuminer le champ de bataille, très bientôt. Perrine capta l'approche d'un homme qui sentait la fourrure, la terre meuble et le sang de lapin. Pendant que l'armée s'organisait, Elias était parti chasser. Pour piéger des lapins la nuit, il fallait être rudement doué. Selon Elias, c'était un très bon défi.
« Un jour, tu m'as dit quelque chose, »
rappela Perrine à son ami.
« Si je me mettais à aimer ma hache, il fallait que je m'en débarrasse. »«
Exact, je t'ai dit ça. »«
Je crois que ça s'applique aussi au commandement. Les gens qui refusent les titres devraient être les seuls à en porter, semble-t-il. Tant que je garderai ça à l'esprit, je devrais m'en sortir à peu près bien. »
Elias eut un petit rire.
La tête de loup en jette rudement là où elle est.
J'en suis ravi. En fait, je l'ai toujours été. C'est moi qui n'en jetais pas à l'époque.
Quelle pensée profonde pour un forgeron.
Peut-être, oui.
Perrine sortit de sa poche le casse-tête qu'il avait trouvé à Malden. Malgré de multiples essais, il n'avait toujours pas trouvé la solution.
Tu n'as jamais été frappé par quelque chose, mon ami. Alors qu'on présente les forgerons comme des gens très simples, ce sont eux qui fabriquent des casse-têtes capables de rendre fou n'importe qui.
Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais bon. Donc, tu es l'un des nôtres au bout du compte.
Non,
répondit Perrine en remettant le casse-tête dans sa poche.
Je suis qui je suis. Point stop.
Il n'aurait su dire ce qui avait changé en lui. Mais son problème, au fond, avait peut-être toujours été de vouloir trop réfléchir. En tout cas, il avait trouvé son équilibre. Et il ne deviendrait jamais comme Noam, l'homme qui s'était laissé dominer par le loup. Cette certitude lui suffisait. En silence, Perrine et Elias regardèrent l'armée traverser. Décidément, les grands portails facilitaient beaucoup les choses. En une heure, toutes les guerrières et tous les guerriers furent passés. La fierté dominant dans leur odeur, beaucoup saluèrent leur chef avec une sincère ferveur. Ses liens avec les loups ne les effrayaient pas. De fait, ils semblaient moins inquiets, maintenant qu'ils connaissaient la vérité. Avant, les spéculations et les questions nourrissaient le doute. Désormais, la vérité aplanissait les difficultés. En même temps, elle était une source de fierté. Le seigneur Perrine n'avait rien d'un homme ordinaire. Leur chef était un individu spécial.
« Il faut que je parte, Perrine, »
annonça Elias.
« Ce soir, si possible. »«
Je sais, la dernière chasse a commencé. Va avec les loups, Elias. Nous nous reverrons dans le nord. »
Le vieux champion posa une main sur l'épaule de Perrine.
« Et si on ne se voit pas là-bas, rendez-vous dans le rêve, mon ami. »«
C'est ici le rêve, »
fit Perrine avec un sourire.
« Et nous nous reverrons, c'est certain. Si tu es avec les loups, je saurai te trouver. Chasse bien, long croc. »«
Toi aussi, jeune taureau. »
Sans un bruit, Elias s'enfonça dans les ombres. Perrine posa la main sur le marteau encore chaud glissé à sa ceinture. Depuis toujours, il croyait que la responsabilité pesait sur un homme. Pourtant, maintenant qu'il avait accepté les siennes, il se sentait plus léger. Perrine Aybara n'était qu'un homme. Perrine Jaune, lui, était un symbole inventé par ses partisans. Sur ce point, il n'avait pas le choix. Sa seule option serait de commander en faisant de son mieux. S'il refusait, le symbole ne disparaîtrait pas, mais les gens cesseraient d'avoir foi en lui. Ce qui était arrivé au pauvre Aram.
Pardonne-moi, mon ami. C'est toi que j'ai trahi le plus.
Repenser à ça n'avait aucun sens. La seule solution était d'aller de l'avant et de s'améliorer.
Je suis Perrine Jaune, l'homme qui sait parler au loup. À présent, je crois qu'il n'y a pas de honte à être moi.
Perrine fit avancer marcheur pour qu'il traverse le portail. Malheureusement, Perrine Jaune avait une boucherie à son programme ce soir. Galad s'éveilla dès que le rabat de sa tente bruissa. Chassant les lambeaux de son rêve, un dîner avec une beauté aux yeux noirs, aux lèvres parfaites et au sourire malicieux, il tendit la main vers son épée.
« Galad !»
lança une voix, celle de Trom.
« Que se passe-t-il ? » ?»« Tu avais raison, »
annonça Trom.
« À quel sujet ?»« L'armée d'Aybara est de retour, sur le haut plateau, au-dessus de nous. Alors qu'ils surveillaient la route selon tes ordres, nos hommes ont aperçu par hasard les soldats de Perrine.
Galad jura, s'assit sur son lit de camp et prit ses sous-vêtements.
Comment cette armée est-elle arrivée là-haut sans qu'on la remarque?
De sombres pouvoirs, Galad. Biar avait raison. Tu as vu à quelle vitesse le camp adverse s'est vidé?
Les éclaireurs étaient revenus une heure plus tôt. Ils avaient trouvé le camp d'Aïbara désert, comme si des spectres l'avaient occupé. Et personne n'avait vu l'ombre d'un cavalier sur la route. Et maintenant, ça. Galad finit de s'habiller à la hâte.
Réveille les hommes, en essayant de rester discret. Tu as eu raison de venir ici sans lanterne. Ça aurait pu alerter ces félons. Dis aux gars de s'équiper sous leur tente.
Oui, seigneur général.
Fit Trom. Il partit dans des grincements d'acier et de cuir. Galad finit de s'équiper. Qu'ai-je fait? À chaque étape, il n'avait pas douté de ses choix. Et voilà où ça l'avait mené. Aïbara prêt à attaquer alors que les fils ronflaient. Depuis la réapparition de Morgaz, le monde de Galad partait en lambeaux. Jusque-là, le bien et le mal lui apparaissaient clairement, mais c'était terminé. Le chemin qui l'attendait semblait embrumé.
« Nous devrions nous rendre, » pensa-t-il en mettant sa cape. « Mais ce n'est pas possible.
Les fils de la lumière ne capitulent jamais devant des suppôts.
Comment une telle idée a-t-elle pu me traverser l'esprit ?»
Les fils devaient mourir les armes à la main. Certes, mais à quoi ça servirait? Allait-il disparaître avant le début de l'ultime bataille? Le rabat bruissant de nouveau, Galad se retourna, épée au poing.
« Galad !»
lâcha Biar.
« Tu nous as tous assassinés !»
Dans la voix du fils, plus une once de respect. Cette accusation indigna le seigneur général.
« Ceux qui marchent sous la lumière n'ont aucune responsabilité dans les actes des maudits qui servent le ténébreux. »
Une citation de Lothair Mantellar.
« J'ai agi honorablement.
Au lieu de te prêter à ce procès de carnaval, tu aurais dû attaquer.
Et nous aurions été massacrés. Aïbara peut compter sur des Aes Sedai, des promises, des hommes capables de canaliser, et bien plus de soldats que nous. Sans parler de pouvoir qui nous dépasse.
La lumière nous aurait protégés.
Si tu as raison, elle nous protégera aussi cette nuit, »
fit Galad, sa confiance soudain retrouvée.
« Non !»
cracha Biar, plein de rage.
« Nous nous sommes fourrés dans cette mouise. Si nous le payons, ce sera mérité. »
Il lâcha le rabat et s'en fut. Galad en resta soufflé un moment, puis il boucla son ceinturon d'armes. Les reproches et le repentir devraient attendre. D'abord, il fallait trouver un moyen de sauver les fils, s'il y en avait un.
Répondre à une embuscade par une embuscade.
Les hommes resteront sous la tente jusqu'à la charge adverse, puis ils surprendront Aïbara avec une sortie en force. Non. Avant la charge, Aïbara déchaînerait un déluge de flèches sur les tentes. Le meilleur moyen de tirer avantage de sa position en hauteur est des arcs longs de rivière. La bonne stratégie serait d'équiper les hommes, puis de les faire sortir de leur tente sur un signal, avec ordre de courir vers les chevaux. Les Amadiciens formeraient un mur d'acier au pied du haut plateau. Si Aïbara prenait le risque de faire passer ses cavaliers par là, des piquets contrarieraient sa manœuvre. Les archers resteraient un problème, mais des boucliers pourraient aider, enfin, un peu. Galad prit une grande inspiration, puis il sortit, afin de donner ses ordres.
« La bataille commençait, » dit Perrine. « Je veux que vous restiez tous les trois à l'arrière. » Je vous aurais bien envoyé en Andorre, mais je sais que vous refuseriez. Cela dit, pas question que vous participiez au combat. À l'arrière, c'est compris ?
Fail regarda son mari, perché sur marcheur, le regard rivé droit devant lui. Ils étaient au sommet du haut plateau, et les derniers soldats émergeaient du portail. Jory Kongar donna à Perrine une lanterne qui dissipa un peu l'obscurité.
« Bien entendu, seigneur, »
dit Berelaine, très docile.
« Je veux que vous juriez, »
insista Perrine.
« En tout cas, « Alliandre et toi, Berelaine. À Fail, je me contenterai de demander en espérant qu'elle m'écoute. »«
Je te donne ma parole, seigneur, »
dit Alliandre. Le ton ferme de Perrine inquiéta au plus haut point Fail. Berelaine avait-elle raison? Son mari allait-il attaquer les Capes Blanches? Même s'il prétendait vouloir participer à l'ultime bataille, les fils restaient imprévisibles. En conséquence, ils risquaient de faire plus de mal que de bien. En outre, Alliandre était la vassale de Perrine, et les Capes Blanches se trouvaient dans son royaume. Qui pouvait dire quels dégâts il ferait avant d'en partir? Enfin, il y avait la sentence de Damodred, suspendue au-dessus de la tête de Perrine.
« Seigneur, »
dit Berelaine, très inquiète.
« Ne fais pas ça, je t'en prie. »«
Je fais ce que je dois faire, »
lâcha Perrine, en sondant la route qui menait à Jeanna. Pas du tout là où se trouvaient les fils, installés au sud de la position des forces de Perrine.
« Mon époux, »
dit Fail avec un regard pour Berelaine. «
Que comptes-tu ?
Un homme émergea des ombres, sans faire de bruit, malgré les broussailles desséchées.
« Perrin Aibara,
dit-il.
« Les capes blanches savent que nous sommes là. »«
Tu es sûr ?
Demanda Perrin. Apparemment, ça ne l'inquiétait pas.
« Ils essaient de le cacher,
répondit Gaul.
« Mais c'est très visible. Les promis sont d'accord avec moi. Les fils se préparent au combat. Des palefreniers retirent les entraves des chevaux, et des gardes passent de tente en tente. »
Perrin acquiesça. Puis il fit avancer Marcheur à travers les broussailles pour gagner le bord du haut plateau. Monté sur lumière du jour, Feil le suivit, et Berelaine chevaucha à côté d'elle. Le versant descendait en pente abrupte vers le lit desséché du cours d'eau parallèle à la route. Jusqu'à ce qu'elle passe au pied du haut plateau, celle-ci allait en direction de Jeanna. Ensuite, elle bifurquait vers Lugard. Au niveau de ce tournant, à l'abri de la colline, se dressait le cercle de tente des Fils de la Lumière. À ses fins, les nuages laissaient passer la lumière argentée de la lune. Au-dessus du lit asséché, un brouillard épais dérivait. Perrin scruta le paysage, s'intéressant surtout aux deux directions de la route. Soudain, des cris retentirent en bas, et des soldats jaillirent des tentes pour courir vers les chevaux attachés aux cordes tendues entre des piquets. En même temps, des torches s'allumèrent.
« Archers, avancez !»
cria Perrin. Les gars de deux rivières vinrent se placer au bord du haut plateau.
« Fantassin, en position derrière les archers !»
ordonna Perrin.
Arganda, cavalier sur le flanc gauche. Galen, sur le droit. Je vous ferai signe si vous devez charger.
Perrin se tourna vers les fantassins, presque tous d'anciens réfugiés.
Restez en formation serrée. Bouclier levé et bras armés pliés. Archers, encochez vos flèches.
Feil sentit de la sueur perler à son front. Quelle folie! Enfin, Perrin n'allait sûrement pas. Pour l'instant, il ne regardait toujours pas les fils, mais il se concentrait sur le lit asséché. À une centaine de pas au-delà de l'extrémité du haut plateau, très abrupte puisqu'il avait été créé par les eaux, à l'époque où il y en avait encore. Perrin regardait quelque chose qu'il semblait le seul à voir. Avec ses yeux jaunes, c'était peut-être bien ce qui se passait.
« Seigneur !»
dit Berelaine, désespérée. Elle fit avancer son cheval pour qu'il flanque Marcheur.
« Si tu dois attaquer, consentirais-tu à épargner le chef des fils ? Pour des raisons politiques, il pourrait être très utile. »«
De quoi parles-tu ? »
demanda Perrin.
« Si nous sommes ici... » C'est pour garder Damodred en vie.
Quoi ? Je...
Seigneur !
Lança soudain Granny.
Je sens que quelqu'un canalise le pouvoir.
Qu'y a-t-il par là ?
Cria Jory Congar.
Je vois quelque chose dans le brouillard.
Feil plissa les yeux. Au pied du haut plateau, dans le lit asséché, des silhouettes apparaissaient, comme si elles sortaient du sol. Des créatures difformes, avec une tête d'animal sur un corps presque humain, mais une bonne demi-fois plus grande que Perrin. Et arborant des armes terrifiantes. Parmi ces monstres, des êtres sans yeux, plutôt minces, avançaient lentement. Comme si ces monstres le déchiraient, le brouillard se dissipa, révélant des dizaines de tueurs sauvages, puis des centaines, et enfin des milliers. Une horde de Trollocs et de Myrdraal.
« Grody ! Neold ! »
cria Perrin.
« Lumière ! »
Des globes lumineux apparurent dans l'air et y restèrent en position stationnaire. Une multitude de Trollocs émergeaient du brouillard, comme s'ils leur donnaient naissance. Gênés par la clarté, ils plissèrent les yeux, puis levèrent une main pour les protéger.
« Qu'en dites-vous ? »
lança Perrin.
« Pour nous, ils ne se sentaient pas prêts, mais ils pensent ne faire qu'une bouchée des capes blanches. »
Il se tourna vers ses soldats, qui semblaient ne pas en croire leurs yeux.
« Vous voulez me suivre jusqu'à l'ultime bataille ? Eh bien nous allons en avoir un avant-goût. Archers, tirez ! Renvoyons cette engeance du démon dans le cloaque qui lui a donné le jour. »
Perrin brandit son nouveau marteau. Alors, la bataille commença.